Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible et nous allons faire deux courtes lectures. Alors, ça se situe, je vous le dis tout de suite, dans l'Ancien Testament. Première lecture dans le livre des Psaumes. Livre des Psaumes, le psaume 36, s'il vous plaît. Alors, c'est un premier repérage de notre message dans ce contexte du livre des psaumes. Le psaume 36 est un seul verset. C'est auprès de toi, car auprès de toi est la source de la vie, et par ta lumière, nous voyons la lumière. Je vais le relire parce qu'il est intéressant, puisqu'il s'agit tout simplement de mettre plein feu sur ce qu'on ne voit pas. C'est curieux, ça. Alors, il y a un processus, il y a un principe qui est décrit dans la Bible, qui remplit d'ailleurs toutes les pages de notre Bible, c'est que la foi, c'est croire ce qu'on ne voit pas. Alors, il y a des choses qui viennent naturellement de Dieu, et Dieu est esprit, il est invisible, nous ne pouvons pas le voir, il nous parle, et c'est de le croire sur parole. Et lorsque nous le croyons sur parole, eh bien, ce qui est invisible à nos yeux devient visible, parce que ça se réalise. Mais il y a un autre monde également, et j'aimerais vous en parler ce soir, un monde invisible dont nous ne prenons pas toujours conscience. Enfin, une grande partie de notre monde ne prend pas conscience. Et là, c'est peut-être une autre affaire que je voudrais expliciter ce soir. Je le relis. « Car auprès de toi est la source de la vie. » Et on peut peut-être en conclure que par ta lumière, nous voyons la lumière, et c'est à cause de la lumière que nous vivons. La lumière de Dieu nous fait vivre, mais de la vraie vie, pas seulement une vie organique, humaine, matérielle, corporelle, physique, mais une vie à dimension morale et spirituelle. Donc, par ta lumière, nous voyons la lumière. Autrement, on ne pourrait pas la voir. Même avec l'intelligence, avec le savoir, la connaissance, pénétrer tous les mystères, impossible. Il faut qu'il y ait une révélation de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la première proposition qui est faite. La deuxième, nous allons la faire dans un livre que nous ouvrons pas trop souvent, c'est le livre de Zacharie. Alors, le livre de Zacharie, c'est un livre mystérieux. Le verset que je vais vous citer est quand même très mystérieux, mais ça explique ce que je viens de vous dire. Au chapitre 13 de Zacharie et verset 7. Zacharie, chapitre 13, verset 7. Et là, nous avons vraiment besoin de la lumière de la vie, ou la lumière qui donne la vie, la lumière de Dieu, parce qu'autrement, il n'y a pas grand possibilité d'avoir les yeux ouverts sur ce monde de l'invisible. Alors ça commence par un terme assez particulier, c'est « épée, lève-toi sur mon berger et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. » Et c'est surtout la suite. « Frappe le berger et que les brebis se dispersent et je tournerai ma main vers les faibles. » Alors c'est vrai que c'est assez difficile à comprendre comme ça à première vue, mais le prophète Zacharie, eh bien, parle de la part de Dieu. Et quand il est question de l'épée, il est question de de mourir. Hein. Voilà. Et c'est une injonction qui est donnée sur le berger. C'est ce qui s'est passé pour Jésus avant la crucifixion. Ouais. Une épée s'est levée contre Jésus pour l'anéantir et l'empêcher d'aller à la croix, de mourir pour nous, et ensuite naturellement de ressusciter. Et cette épée, elle vient bien de quelque part. C'est-à-dire, c'est une épée de destruction. On pourrait le traduire comme ça, épée de destruction, lève-toi sur mon berger, sur l'homme qui est mon compagnon. Je pense à Jésus en disant ça. Et frappe le berger, surtout quand il s'agit du souverain berger, le grand berger. Alors à ce moment-là, les brebis se disperseront, mais je tournerai ma main vers les faibles. Alors, on va essayer d'expliquer tout ça à travers une histoire que vous connaissez. On va la reprendre ce soir, si vous voulez, c'est dans l'histoire de Job. Parce que Job était un homme intègre et pieux, il se loignait autant que faire se peut du mal, et pourtant c'est un homme qui a eu véritablement, on pouvait dire que c'était un berger, c'était un compagnon de Dieu, puisque les termes sont « et que de souffrance n'a-t-il pas enduré hein, Job ?» Alors on va donner un éclairage, si vous voulez, un éclairage stupéfiant. Alors c'est vrai, c'est bon pour nous, mais c'est aussi de l'évangélisation pour tous ceux qui ne sont pas là malheureusement, mais bon, toujours est-il que ça peut être entendu, ça peut être compris à travers d'autres moyens. Donc c'est quelque chose d'assez stupéfiant, cette projection qui nous est donnée et que la Bible révèle sur un monde invisible et un monde destructeur de la vie et qui dévoile, ou c'est le dévoilement tout simplement, de ses moyens d'action et de nuisance. Alors, quand on lit le livre de Job, on s'aperçoit que un coin du voile restait mystérieux pour Job, pour les gens de son temps, pour nous révéler, parce que Job y vivait il y a très 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 longtemps, et aujourd'hui nous pouvons comprendre que derrière tous ces malheurs, toutes ces situations épouvantables qu'il a connues à différents niveaux, eh bien c'est qu'il y avait véritablement un dessein destructeur, un dessein de mort, pour détruire cet homme qui aimait Dieu, qui servait Dieu, qui était un serviteur de Dieu, pour le détourner tout simplement de sa foi, de sa confiance, et l'amener eh bien là, tout simplement à maudire Dieu, comme cela lui a été dit par sa propre femme. Alors on va prendre dans le livre de Job, on va lire quelques... Je ne vais pas reprendre tout, mais je vous ai dit que c'était un homme intègre, c'était un homme pieux, c'était un homme qui aimait Dieu, c'était un homme qui servait Dieu, et voilà qu'à un moment donné, eh bien... Et ça vaut peut-être aussi pour nous, si nous avons quelques engagements et que nous aimons le Seigneur, je n'en doute pas un instant, et que nous le servons. Et parce que nous le servons, il faut nous attendre à ce que nous rencontrions sur notre route et notre chemin, eh bien, peut-être des hommes, des gens, auxquels ça ne va pas plaire. Toute la Bible nous en parle. Dixit, l'apôtre Paul, quand il a voulu prêcher l'évangile, je peux vous dire que toute sa vie, ça a été quelque chose d'inimaginable, ce qu'il a vécu. Et puis, pour nous-mêmes, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas que nous soyons étonnés, comme dira l'apôtre Pierre, de la fournaise ardente dans laquelle nous sommes renfermés. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans notre monde, et ces temps-ci, de persécution des chrétiens. Voilà. Persécution dans un pays, dans un autre, sous différents régimes religieux, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le bouddhisme, que ce soit aux Indes avec l'hindouisme, ou que ce soit dans toutes sortes de situations, voire même dans le christianisme, dans certaines contrées de notre monde, où ces gens qui se disent chrétiens ne sont pas chrétiens, puisqu'ils font souffrir, ils haïssent et ils tuent. C'est ce qui s'est passé pour Jésus, c'est ce qui s'est passé pendant des siècles et des siècles, ne serait-ce que dans notre continent européen, où il y a eu des persécutions religieuses terribles. Alors il n'y a pas que les hommes. Derrière les hommes, il y a une pensée. Il y a un être pensant et intelligent qui monte finalement les hommes les uns contre les autres pour qu'ils s'entretuent et que le témoignage chrétien soit véritablement mis par terre. Comment voulez-vous que le témoignage où Jésus nous dit « aimez-vous les uns les autres » et que des gens qui se disent chrétiens dans la généralité, c'est un générique, et qui s'entretuent les uns et les autres avec des choses abominables, comme nous l'avons vu dans les dernières guerres mondiales, où c'était des chrétiens qui se sont complètement opposés les uns les autres. C'est terrible. Alors, il faut bien dire qu'il y a les hommes, le cœur de l'homme, le péché de l'homme, il y a la méchanceté du cœur de l'homme, mais derrière il y a un souffle. Voilà, on va le découvrir, on va le redécouvrir, si vous voulez bien, avec l'histoire de Job. Je lis par exemple dans Job, je ne vais pas tout lire, mais on va lire une partie, comment les choses sont faites et comment les choses sont approchées, comment il y a des défis sur la tête des enfants de Dieu, des chrétiens et de tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu. Parce que je ne veux pas seulement tenir compte de notre réunion ce soir où nous avons une connaissance biblique de tout cela, mais je pense que quelquefois il y a des hommes aussi, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui s'approchent de Dieu et qui à un moment donné, avec de grandes dispositions et de grands élans pour dire « moi j'aime le Seigneur, je voudrais le connaître davantage », eh bien, qui quelque part sont complètement déboutés, sont déconcertés en disant « plus je veux m'approcher de Dieu, plus j'ai de l'opposition ». Eh oui, c'est normal. C'est normal. Je ne peux pas vous dire le contraire parce que ce que nous disons, c'est que nous l'avons vécu. Donc, l'expérience aidant. Donc Job, je vais lire à partir du verset 6, Et nous allons, à ce moment-là, eh bien, comprendre un petit peu toute la stratégie du monde invisible, tout ce qui se passe derrière. Donc, Job, chapitre 1er, verset 6. L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Et puis, le reste, vous le connaissez. Donc, nous voyons qu'il y a un défi à travers tout cela. C'est pas le verset, c'est pas le chapitre premier, hein. Chapitre 2. Alors, on va le reprendre si vous voulez, hein. Voilà. On va le reprendre. Voilà, c'est au chapitre 2. Je vais reprendre à partir du début, hein. Voilà, comme ça, ça sera mieux. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Satan, voilà, c'est ce que je cherchais, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites. » à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie, mais étant ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Voilà la situation que je recherchais il y a un instant, et je vous ai induit en erreur. Alors permettez-moi, je m'excuse de un petit peu cette fausse direction, mais vous avez compris ce que ça veut dire, en tous les cas. D'abord, Job est confronté avec un redoutable défi, un enjeu de la fidélité à Dieu et de sa foi. On l'a dit, je ne veux pas le répéter, un homme intègre et droit, et il veut rester dans cette condition donc de servir Dieu et de lui exprimer eh bien là tout son amour et son service. Et vous avez remarqué, il y a comme quelque chose qui se passe dans les cieux qu'on ne voit pas. Sur la terre, on peut voir des choses, si on est naturellement dans la sphère où nous nous sommes, et on peut tout simplement dire, eh bien, ceci, cela, je l'ai compris parce que je l'ai vu, tout simplement. Je peux le constater, c'est un fait. Mais dans le ciel, il se passe autre chose. Et dans le ciel, il n'est pas seulement occupé, le ciel, par Dieu, mais il est occupé aussi par l'ennemi des hommes et l'ennemi de Dieu, qui est Satan. Le nom est donné, hein. Et il nous est dit un jour, eh bien, que là, eh bien, le diable est venu se présenter, tout simplement, et il y a eu naturellement eh bien, ce défi où Job et sa vie, sa foi, sa confiance en Dieu est mis tout simplement eh bien, là en jeu. Tu as vu, c'est un homme qui me sert, c'est un homme qui eh bien, là, fait ceci et cela, etc., etc. Donc, pas de problème. Et Satan dit, mais peau pour peau, hein. On le touche et tu vas voir un peu comment il va faire. Touche-le. Et je suis sûr qu'il te maudit en face, nous dit le texte. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Alors, ça revient un petit peu à ce que nous avons lu dans la deuxième lecture. L'objectif, il frappera le berger et les troupeaux seront dispersés. C'est-à-dire que quelque part, à partir d'un état où véritablement, eh bien, la paix doit s'instaurer, la confiance, la foi, cette amitié avec Dieu, de l'homme avec son Dieu, avec son Sauveur. Eh bien, nous voyons qu'il y a des défis qui sont lancés sur la tête des croyants et des chrétiens. Et ce qui fait que quelquefois, ça nous arrive et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je fais tout ce que je peux et il m'arrive que des histoires, que des problèmes. Je prie, je ne suis pas exaucé et puis ainsi de suite, hein, comme cela. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Alors, Dieu dira, mais tu m'excites à le perdre pour rien, tout simplement. Et Satan répond, ben, peau pour peau, tout ce qu'il nous possède, il le donne pour sa vie, tout simplement. Alors, on voit que c'est une réalité pour nous aujourd'hui, ça n'a jamais cessé, hein, quoi qu'il en soit. Ensuite, il y a, et c'est là où je reviens à mes confusions de chapitres, c'est en chapitre premier, vous avez compris, je me suis un petit peu mélangé. Ensuite, il y a une attaque inattendue qui va arriver sur la vie de Job. C'est-à-dire que des hommes vont être les agents de l'ennemi pour attaquer Job avec une intelligence criminelle et inspirée d'en haut. Et c'est là où nous en revenons, chapitre 1er, verset 13, on va le lire, hein, et c'est un attentat terroriste. Vous savez, on parle beaucoup d'attentats terroristes aujourd'hui, hein. Eh ben, ça a toujours existé. Moi, je crois que derrière les attentats terroristes qui sont déployés ou qui sont animés, qui sont inspirés par des conflits religieux, par des différences religieuses ou politiques, ou d'une manière ou d'une autre, ou économiques, parce qu'il y a là des intérêts d'une manière ou d'une autre, je pense qu'il y a le cœur de l'homme et derrière, il y a quelqu'un qui souffle. Ça, c'est sûr. C'est le but du diable, hein, d'enflammer les choses. Vous savez que nous sommes dans un monde en flamme, hein, actuellement. Ça brûle de tous les côtés, hein. Et on fait bien attention que ça ne nous arrive pas. Mais bon, malgré tout ça, peut-être qu'il faut peut-être s'attendre, un jour ou l'autre, que tout ce qui s'est fait depuis des siècles et des siècles revienne au galop. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Hein. L'homme ne maîtrise rien. Hein. On a du mal à maîtriser la nature, on le voit, on le constate. Alors, le cœur de l'homme, c'est encore autre chose. Hein. Quand la folie s'empare, hein, soit du nationalisme, ou à travers des fanatismes, à travers là toutes sortes de choses qui sont complètement déraisonnables. Alors, on va relire, par exemple, verset 13 au verset 15. Et on va expliquer que là, à ce moment-là, il y a une attaque, la première attaque inattendue contre Job, c'est celle que nous sommes en train de voir et de commenter maintenant. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient et les ânes paissaient à côté d'eux ». Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et celui qui annonce la nouvelle à Job, « Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Voilà, un attentat au moment où finalement, eh bien, la famille de Job s'était réunie. Et il y avait là tout un climat familial naturellement. Et c'est à ce moment-là qu'est survenu, il nous est simplement dit que, eh bien, il y avait des troupes de bandits, hein, les Sabéens, c'était des gens qui faisaient des incursions dans les pays, et entre autres en Israël, enfin, dans le pays que nous connaissons, et nous apercevons qu'ils sont fondus et ils ont passé tout le monde par le fil de l'épée. Hein. Et on peut en tirer naturellement que les fils et les filles de Job, eh bien, sont morts. Catastrophe, hein. Voilà. Et on peut pas parler d'un attentat terroriste comme il y en a des plusieurs chaque jour, hein. C'est terrible, hein. Des gens qui arrivent avec une idée bien précise, c'est de tuer, c'est de faire mourir. Et ça, c'était les enfants de Job. C'est pour vous dire que ça prend quand même des allures assez... La persécution peut prendre des allures tellement inattendues et puis incroyables. Ouais, détruire. Vous savez que le but du diable, Jésus lui dira, mais il est meurtrier et il est le menteur depuis le commencement. Hein. Voilà, quand il arrive à séduire un peuple, quand il arrive à séduire un groupe d'hommes, quand il arrive à séduire une personne, en lui faisant avaler des mensonges les plus grossiers soient-ils, et que les gens deviennent fous, alors à ce moment-là, c'est terrible. Donc, on peut parler d'attentat terrorisme, et il y a, je le répète, il y a des hommes, mais derrière les hommes, il y a une animation. Alors, c'est souvent la haine, hein, faut pas se faire d'illusions, c'est la jalousie, c'est l'envie, c'est toutes sortes de choses. Hein. Puis voilà qu'il va y avoir encore un autre malheur qui va tomber sur Job. Pauvre Job, j'aurais pas voulu être à sa place parce que véritablement c'est le ciel qui lui tombe sur la tête. Hein. Et ça va de crescendo en crescendo. Hein. Alors il y a encore une autre situation, c'est un cataclysme qui va survenir inexplicable si nous n'avons pas finalement eh bien, des yeux pour voir ce qui se passe dans l'invisible. Et on sait d'où ça vient. Au verset 16, il est dit ceci, il parlait encore le premier qui vient d'annoncer la mort des enfants de Job, là massacrés. Lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Pauvre Job. Voilà. Alors ça le touche dans ses biens, on pourrait dire, dans sa vie économique. Hein, Job était un homme considérable et un homme qui avait certainement pas mal de richesses et tout ça. Il était prince de l'Orient, c'est ce qu'il nous a dit. Et puis voilà qu'à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, le feu est tombé. Alors là, il est marqué le feu de Dieu. Mais quand on peut lire que hein, celui qui est flamme, celui qui enflamme, c'est pas Dieu. Hein. Dieu est toujours celui qui apaise et celui qui appelle les hommes. Mais le texte nous montre, avec une certaine forme d'ironie, que ce n'est pas le feu de Dieu qui est là. Parce que le feu de Dieu, il est là pour purifier, non pas pour faire mourir. Et nous voyons qu'il est tombé du ciel. Voilà, tout simplement, hein, feu de Dieu tombé du ciel. C'est la soudaineté. Et puis, nous allons un peu plus loin, au verset 17, il parlait encore, ce deuxième, lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens formés en trois bandes, se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Alors voilà, hein, massacre sur massacre. Quel livre assez étonnant, hein, quel avis, parce que quand on ouvre des pages comme ça, on se dit, mais c'est terrible. Et pourtant Dieu est saint, sa parole est sainte, la Sainte Bible. Mais ce qui est marqué, ce qui est dévoilé à notre connaissance, c'est pas pour montrer que Dieu est corrompu, que Dieu est celui qui fait le mal, c'est pour montrer que les hommes sont véritablement corrompus, ils ont besoin de Dieu pour changer. Naturellement, c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont atroces. Alors, ils les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Troisième étape pour Job. Et ça, c'est sans arrêt. Voyez? Moi, j'ai remarqué que dans ma propre vie, et puis certainement dans la vôtre, que quand il y a quelque chose qui ne va pas, mais pas à l'échelle de Job, hein, on n'a pas passé encore par là, et heureusement, et j'espère que on n'y passera pas, mais quand j'ai remarqué, quand il y a quelque chose qui va mal, qui déraille, il n'y a pas qu'une chose. C'est comme les journalistes disent, ils parlent d'une série noire, vous comprenez? Une série noire, il y a des choses, il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, etc., etc. Et on se dit, mais à un moment donné, mais à perdre la raison, parce que quand est-ce que tout cela va s'arrêter? C'est vrai dans des états de santé, c'est vrai dans des situations économiques où quelqu'un bien commence à perdre son travail et puis bah il va viseter à un moment donné, puis il va encore perdre ce qu'il a gagné, etc., etc. Ça n'en finit pas. Hein. Alors il y a un malheur ici, il y en a un autre qui s'enchaîne, etc., etc. Il y a de quoi désespérer. Mais sachez que tout cela, et je voudrais quand même le dire, ça ne vient pas de Dieu. Il faut le dire. C'est pour ça que je disais plein feu sur le monde de l'invisible, des réalités invisibles qui sont autour de nous. Alors vous n'allez pas, en sortant ce soir, voir le diable partout, hein, parce que c'est pas le propos. Hein. Non, mais néanmoins, il existe. Et il suffit de juger un peu des événements de notre monde pour dire, mais c'est terrible. Moi, quand je vois un petit peu là, les gens qui sont dans l'eau, et après, ils sont dans le gel, ils sont dans la neige, etc., etc., mais quelquefois, il y a de quoi faire des primes. Hein. Hein? Et encore, on est dans un pays où on apporte du secours, mais il y a des pays où il n'y a rien du tout. Hein? Hein? Et la famine, c'est pareil. Dans des situations, on voit les incendies qui sont allumés cette année, là, au Portugal, en France, dans certains pays. Je me dis, ça devrait laisser réfléchir les gens. Et peut-être la réaction des gens qui vivent ça de notre temps disent, mais alors, qu'est-ce que fait Dieu? Il est injuste. Mais non, c'est pas Dieu qui est injuste. C'est les hommes qui sont injustes, mais il y en a un qui, justement, eh bien, profite de la situation pour enflammer le monde. C'est terrible, hein, des choses pareilles. Alors, on était au verset 17 pour nous dire tout cela. Hein. Et il parlait encore lorsqu'un autre dit, mais tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin, ce qui nous ramène à ce que nous avons lu tout à l'heure, dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison et s'est écroulé sur les jeunes gens et ils sont morts. Et moi, je me suis échappé pour t'en apporter la nouvelle. Alors, on se dit, mais il vaudrait mieux que personne n'en échappe pour qu'ils puissent plus finalement savoir ce qui se passe. Hein. Parce que derrière les nouvelles catastrophiques et terrifiantes, il y a le côté épouvantable psychologique. On vous annonce une mauvaise nouvelle, on vous en annonce encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. Il y a de quoi véritablement dérailler, hein, perdre la tête. Hein. Et bien, c'est ce qui s'est passé à Job. Alors, le livre de Job, c'est en quelque sorte, c'est pour montrer un peu les souffrances de l'humanité dans le temps et dans l'espace. Voilà, on peut le dire comme ça. Hein. Bon, Job, considérons que c'est un homme, mais c'est la souffrance de l'humanité. Job est le représentant de l'humanité à travers tous les temps et à travers tout ce qui s'est passé de dramatique et d'épouvantable dans l'histoire. Hein. Depuis les temps immémoriaux jusqu'à aujourd'hui et sans savoir encore ce qui nous attend. Enfin, rassurez-vous, vous avez mis votre foi dans le Seigneur, lui il est capable de garder ses enfants, il en a fait la promesse. Donc, et pourtant Job y est passé. Et pourtant c'était un croyant naturellement. Alors, on parle d'attentat, on parle de soudaineté, et il est tout simplement, eh bien là, parler de gens qui interviennent, hein, une razzia de voleurs, et encore un phénomène apparemment surnaturel d'anéantissement. Le vent du désert, il nous est dit à un moment donné. Le vent du désert qui souffle. Ah oui. Et le verset 18, nous l'avons lu il y a un instant. Même cause, même résultat. Et il va y avoir une mi-temps, en quelque sorte. Vous savez, comme dans un match, hein, une mi-temps où les gens qui se sont affrontés, on va leur laisser un peu de repos. Et c'est ce que nous dit le verset 20, par exemple. 20 à 22. Alors, après toutes ces mauvaises nouvelles, il nous est dit, alors Job se leva. S'il pouvait encore se lever après avoir été assommé par toutes ces nouvelles. La perte de ses enfants, la perte de ses biens, les uns après les autres, alors que ce soit le vent, que ce soit des bandits, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Il a déchiré son manteau et il s'est rasé la tête. C'était un signe chez les anciens hébreux de consternation et tout simplement de désespoir en quelque sorte. Voilà. Puis il se jeta par terre et il se prosterna. Ouais. Il a eu une réaction qui n'était pas finalement aussi négatif qu'on aurait pu peut-être le penser et le croire. Il s'est prosterné et il a dit cette parole, c'est une prière. « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. » Il a compris une chose, Job. Après avoir perdu tout ce qu'il a perdu, tout ce qui lui avait été donné, qu'il avait perdu sa richesse, mais la plus grande valeur c'était quand même ses fils et ses filles qui ont disparu, c'était sa chair naturellement. Et il dira ces paroles, je suis sorti nu et je retournerai nu comme je suis venu. Tout simplement, ce qui montre bien que l'homme est l'homme et que l'homme n'a aucune maîtrise sur le jour de sa mort et sur, finalement, eh bien, les événements de la vie. Vous savez, il y a des gens qui vivent des drames tous les jours. Hein. Ils sont frappés d'une façon ou d'une autre. Hein. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que l'on peut y faire? Si on savait les choses à l'avance, peut-être qu'on n'irait peut-être pas à l'endroit où nous attend finalement notre destin. Mais c'est comme ça. Et je pense que la première prise de conscience dans cette humanité qui est la nôtre, celle d'hier, du temps de Job, ou celle qui est encore la nôtre, c'est que les gens, quelque part, sont dans la vie. Ils mangent, ils boivent, ils vivent, tout simplement. Hein. Je ne veux pas y mettre une connotation morale ou immorale. Mais toujours est-il que, quelque part, eh bien, c'est le chemin des hommes sur toute la terre, comme cela. Et souvent, ils ne prennent pas conscience qu'à un moment ou un autre, en un clin d'œil, ouais, on peut dire ça comme ça, ils peuvent être emportés. Ouais. Il y a des gens qui prennent la voiture et puis voilà, tout simplement. Hein. Et bien d'autres situations semblables à celles que je suis en train de définir. Alors, il va dire ceci. « Je suis venu nu, je retournerai dans la terre nu. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. » Ah ouais. Et lui, ne sachant pas ce que nous connaissons, ne sachant pas qu'il y a un ennemi qui en veut à sa vie, qui en veut à sa foi et à la confiance qu'il met en Dieu, à son intégrité de croyant en Dieu, il ne le sait pas, Job. Nous le savons parce que ça nous est dit, et c'est ce que nous sommes en train de voir ensemble. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il ne va pas se révolter. Pourtant, il y a de quoi, hein. Il y a de quoi, quelquefois, nous avons quelques petits bobos en disant « Mais Seigneur, je comprends pas, pourquoi tu as permis, moi c'est pas juste, et ceci et cela, et tant que nous allons nous perdre dans des considérations et toutes sortes de choses comme ça, nous n'avancerons pas. On ne pourra pas, Dieu ne pourra pas nous éclairer, il ne pourra pas nous-mêmes nous montrer que derrière, c'est pas Dieu qui est à la manœuvre pour nous faire du mal. Mais c'est qu'il y a un ennemi qui est l'ennemi de Dieu, mais qui est l'ennemi aussi de ceux qui sont amis de Dieu, c'est-à-dire les hommes, enfin les chrétiens. Enfin, pour nous les chrétiens, les croyants en général, ceux qui ont ce respect et cette confiance en Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Et il dira en se prosternant, mais que le nom de l'Éternel soit béni. Ça ne veut pas dire que Job dit, Seigneur, merci de m'avoir envoyé des épreuves. Merci Seigneur, je me réjouis parce que c'est quelque chose, c'est une école extraordinaire. Non, pas du tout. C'est terrible ça, de vivre des choses pareilles. Mais une chose qui est certaine, c'est que il comprend que tout est venu de Dieu. Et que c'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Ouais. Maudis-le, et je suis sûr tu le maudis, et il se révoltera contre toi. Voilà. Et je pense que nous avons un modèle, j'allais pas dire de perfection, mais d'intégrité, de la foi à ce moment-là où Job ne va rien imputer à Dieu de responsabilité. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et vous savez, quelquefois, dans les malheurs, ou dans les situation difficile, dans nos mésaventures, quelquefois, mais c'est pas Dieu qui est derrière. C'est celui qui a finalement porté un défi sur notre tête pour dire, eh bien voilà, lui, chrétien, tiens, tu vas voir, je vais le pousser un petit peu, tu vas voir, il va te maudire. Hein. Parce que, non, c'est pour ça que on parle de plein feu sur un monde qu'on ne voit pas et que Dieu est capable, finalement, de nous révéler. Et il y a une chose dans laquelle nous pouvons connaître ces choses, c'est lorsque nous lisons la parole de Dieu et que nous demandons à Dieu, éclaire-moi sur certains mystères, sur certaines choses. On comprendra pas tout, hein. Et Dieu n'a pas à nous expliquer tous les mystères. Il y en a bien qu'on ne connaîtra jamais, ou sinon de l'autre côté. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il faut pas se révolter, tout simplement. Alors, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et il nous est simplement dit, dans ce mi-temps, puisque vous allez voir, ça continue après, hein, ça continue. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Ah, c'est un surhomme, hein, on peut le dire quelque part. Hein. Et ça continue, et ça continue, et ça se rapproche de plus, toujours de plus en plus près. Et c'est maintenant, après avoir perdu ses enfants, après avoir perdu ses biens, sa vie économique, ce qu'il était, sa réputation peut-être, maintenant il va être touché, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, il va être touché dans sa santé. Parce que bon, on peut perdre des choses, les choses c'est les biens, on peut perdre des affections, c'était ses enfants, et ça c'est cruel et c'est terrible. Mais quand ça vous touche personnellement et que vous avez mal, et que vous avez finalement comme un feu qui vous brûle, à l'intérieur de vos veines, la douleur, la souffrance poussée à l'excès. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on devient? Et c'est bien dans ce chapitre 2, et on va le relire, je me permets. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Je voudrais simplement signaler que quand le diable dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener, c'est pas pour y faire du bien. Allumer un peu le feu en Afghanistan, le faire en Corée du Nord, souffler un peu sur la Birmanie, ils sont zen là-bas, hein, hein, ou aux Indes, et puis en Afrique, avec les famines, avec des choses, avec des razzias, toutes sortes de choses, il se promène, et il allume le feu partout. Alors, ceux qui ne sont pas avertis en disent, mais bah, Dieu n'existe pas, hein, parce que si Dieu existait, il n'y aurait pas tous ces malheurs sur la terre, il n'y aurait pas ces guerres, il n'y aurait pas le sang, il n'y aurait pas toutes ces injustices. Parlez. Ah oui, mais de qui on parle là? C'est toujours Dieu qui est coupable dans toutes les affaires, dans le cœur et la conscience des gens. Mais jamais le diable. Quand les gens jurent, c'est au nom de Dieu. Et jamais au nom du diable. Jamais j'ai entendu, hein. L'Éternel dit à Satan, alors, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu est en train de rendre un bon témoignage de son serviteur. Comme quelquefois, eh bien, il peut le faire, certainement, et je l'espère, sur les enfants de Dieu, dans ses églises. Où des gens sont consacrés, où des gens aiment le Seigneur et les gens le servent, les gens l'aiment de tout leur cœur, leur Dieu. As-tu remarqué, il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Voilà, c'est Dieu qui répond cela, à Satan. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Ah oui. Eh oui, ça c'est sûr. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ce sont les défis de l'adversaire. Voilà. Tel serviteur de Dieu, tel homme ou femme qui aime Dieu, qui sont à son service, qui rendent témoignage, qui prient, qui ont véritablement, qui remplissent un service pour le royaume de Dieu, alors le diable il se met en route et il dit, ben, celui-là, il faut que je le descende. Celui-ci, il faut que je le fasse dégringoler, d'une manière ou d'une autre. Soit, et on va le voir d'ici quelques instants, soit en l'écrasant de souffrance, ou alors, en lui disant comme Jésus y a eu droit à la proposition, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes de cette terre, et il faut que tu te prosternes et que tu m'adores. Et vous savez ce qu'a répondu Jésus, hein, naturellement. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne ta main. Vous avez vu ce qu'il dit? Je te le livre. C'est la volonté permissive de Dieu sur la vie des enfants de Dieu, des croyants. Je te le lis, volonté permissive. Mais quand Dieu livre Job, quand Dieu dit au diable, bah écoute, hein, tu veux voir ce qu'il est capable de faire? Tu veux voir comment il va rester fidèle? C'est que Dieu est sûr que nous n'allons pas le renier. Autrement, il ne permettrait pas. Ça, faut que vous le sachiez. Et c'est ce qui nous est dit dans 1 Corinthiens chapitre 10. Aucune tentation, aucune épreuve, aucun défi de l'adversaire ne vous est survenu qui n'ait été humaine. Et Dieu permettra, à travers peut-être le feu, à travers les épreuves, à travers les tribulations, à travers toutes sortes de choses qui sont difficiles à vivre, eh bien Dieu ne prendra jamais de risque avec vous ou avec quiconque, parce qu'il sait déjà que celui qui est exposé à ce genre de feu et cette guerre spirituelle, eh bien il tiendra le coup. Parce que c'est Dieu qui va nous donner de tenir le coup. Et vous savez ce qui nous donne de tenir le coup? C'est notre foi. Résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Job a résisté avec une foi où il n'a pas été ébranlé. Et pourtant, on entend des choses dans ce livre. On comprend des choses. Voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa, puis Satan frappa, c'est pas Dieu, d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Ben dites donc, imaginez-vous cette maladie. Peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être ça à parler d'un cancer généralisé. Ouais. Il n'y avait pas le scanner, et puis l'IRM, et puis tout le reste. Ouais. Et Job prit un tesson pour se gratter. C'était son médicament, vous comprenez? Son traitement de chimiothérapie. Il a pris un tesson pour se gratter, il s'assit sur la cendre, qui est un signe de profonde humiliation, que l'homme est à deux doigts de mourir. Puis alors, voilà, pour compliquer la chose, c'est que sa femme, Madame Job, vous connaissez Madame Job? Elle a toujours de bons conseils. Vous allez voir. Elle se tourne vers son mari et elle lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité? Mais t'es malade, mon pauvre Job. Tu te rends compte avec tout ce qui t'arrive? Tu te rends compte ton Dieu que tu sers depuis des années, à qui tu donnes toute ta vie, que tu adores ton Dieu? Tu te rends compte? Tu demeures ferme dans ton intégrité? Alors, si tu veux en finir, tu maudis Dieu et tu meurs. Voilà comment on se débarrasse de son mari. Enfin, j'espère que je ne vous donne pas de mauvaises idées. Ma femme l'a entendu, mais j'espère qu'elle... Bon, on va ranger ça à la maison. On va voir ça. Mais Job répondit, comme les premières paroles, « Tu parles comme une femme insensée. » On voyait que le couple n'allait pas très 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 bien en ce moment-là. « Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ?» Et en tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Merci Seigneur. Parce que quand Dieu permet que nous passions par une épreuve, c'est qu'il est sûr que si nous voulons lui faire confiance, eh bien nous en sortirons. Et pour tous ceux qui ont des tribulations là, ce soir, et vous en avez probablement, mais si vous entendez ce message et vous l'entendez, et que vous continuez à dire au Seigneur, c'est pas toi qui es responsable. Mais Seigneur, tu es avec moi, tu n'es pas contre moi, tu es mon ami, je suis ton ami, et tu me permettras que je sois suffisamment fort pour sortir de l'épreuve, et je sortirai victorieux de l'épreuve. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était surhumaine, naturellement. Prenez courage, nous dit Jésus, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le diable, et j'ai vaincu le malin. C'est pour ça que c'est important quand même de savoir que nous avons besoin d'avoir un regard sur des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont des réalités. Et au lieu de se laisser écraser par une avalanche de problèmes et de difficultés, d'en finir à un moment donné, de dire comme la femme de Job, eh ben tu meurs et puis comme ça on n'en parle plus. Non, c'est pas ça. Parce que vous savez que Job, il va vivre après. Et Dieu va lui rendre au centuple tout ce qu'il a perdu. Et l'épreuve, elle n'est pas là pour nous neutraliser, elle n'est pas là pour nous, finalement, nous anéantir. Elle est là pour nous rendre encore plus forts, encore plus de confiance, et nous donner, eh bien, d'en sortir victorieux, tout simplement. On peut dire que c'est la descente aux enfers. Je le dis, il a déjà tout perdu dans la première étape. Et voilà que il y a là un temps où il va se ressaisir, il va dire non, Dieu n'est pas coupable dans tout ça. Voilà, Dieu n'est pas coupable. Et puis après, il y a une nouvelle avalanche qui lui tombe sur la tête, c'est sa santé. Ah, ça fait mal, Quand ça touche, tant que ça touche les autres ou nos affaires, on se dit, bon, c'est extérieur. Et quand ça nous touche dans notre propre vie, c'est terrible. Une descente aux enfers de la douleur. Et il va vivre aussi cette solitude parce que même sa femme est contre lui. Il va avoir des amis qui vont venir le voir, des amis fâcheux. Tout de suite, après, au chapitre 3, vous lirez. Et ses amis vont lui dire exactement la même chose en disant, mais si t'arrivait ceci, si t'arrive cela, etc. Mais c'est que Dieu t'abandonne, tu te rends compte? Voilà, tu es un orgueilleux, tu es un pécheur, etc. Bah, vous savez, je voudrais vous dire que Jésus, il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les enterrer, il est venu pour les faire vivre. Mais d'une autre vie, d'une autre dimension. Alors, en cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Le but dans tout cela, c'est le diable veut anéantir le plan de Dieu. À travers le témoignage de l'Évangile, mais à travers ceux qui rendent témoignage à l'Évangile, à travers ceux qui proclament l'Évangile. On a parlé de Paul, le pauvre Paul. C'est le Job du Nouveau Testament, on peut dire. Hein. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens, des chrétiens qui... Mais non, ils restent fidèles. Ils passent par toutes les épreuves, par toutes les difficultés. Il leur manque beaucoup de choses, et pourtant ils restent fidèles. Qu'est-ce qui peut nous donner cette force? C'est la foi dans l'amour de Dieu. Et il y a un passage qui est extraordinaire, c'est dans Romains, quand il est dit, mais nul ne nous ravira de sa main d'abord, et que ce n'est ni l'enfer, ni le malin, ni la mort, ni la vie, ni les tribulations, ni les épreuves, ni la guerre, ni l'épée, enfin c'est la guerre. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est ça la force. Et la seule force, c'est pas de se débattre comme un beau diable, excusez-moi, mais la seule force, c'est de croire que Dieu nous aime malgré les circonstances et que nous continuons à l'aimer, même si nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. C'est ça Job. C'est un livre extraordinaire. On voit qu'il y a toute une exploitation en sous-main dans l'invisible pour anéantir le plan de Dieu. Et sa stratégie, la stratégie de l'ennemi, c'est tantôt la souffrance, ou la jouissance, ou alors l'orgueil. Tomber dans l'orgueil, d'une manière ou d'une autre. C'est les trois tentations que Jésus a connues pendant les 40 jours de jeûne dans le désert, hein, naturellement. Et il faut garder la foi. Les armes de l'ennemi sont très subtiles. Je crois que c'est dans une des épîtres de Paul, je me souviens plus de la situation, il nous est dit que le diable se déguise en ange de lumière. Ouais. C'est-à-dire qu'il vient à vous, il vient vers les hommes, il vient même vers les croyants, avec une bonne mine, en disant des contre-vérités, mais si bien déguisé, si bien emballé, que finalement, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, si nous ne connaissons pas ou partiellement la parole de Dieu, nous risquons de tomber dans le panneau. En ange de lumière. Eh oui, remarquez, c'est tout à fait ça, parce que, vous savez, Satan, c'est le nom qui est donné à la Bible. Il nous est dit que Lucifer, hein, et vous savez ce que ça veut dire Lucifer? Ça veut dire tout simplement resplendissant ange de lumière. Celui qui, eh bien, paraît lui lumière, mais qui n'est pas lumière, qui est ténèbre. Il est les ténèbres personnifiées, naturellement. Alors, on voit que dans ces déguisements, c'est à nous de le reconnaître, comme Jésus nous enseignera par rapport aux faux prophètes, aux faux docteurs, aux faux apôtres, aux faux chrétiens. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ce sont des loups ravisseurs. Hein. Et ça, faut faire attention. Alors, si déjà les agents du diable sont comme ça, je peux vous dire que lui-même, c'est encore un autre niveau. Hein. Ouais. Il y a eu un film, mais il est très vieux, c'est un film, ça fait partie des films, vous savez, des grands films qu'il y a dans la cinématographie française et tout ça, La beauté du diable. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce film. C'est un très très vieux film et qui montre bien, hein, c'est pas des chrétiens qui l'ont fait, hein, je peux vous dire, mais néanmoins, c'est quand même une vérité. Hein. Moi je l'ai vu une fois, je me suis dit, bah dis donc, franchement le gars qui a fait ça, le cinéaste qui a fait ça, c'est qu'il avait compris quelque chose. Hein. La beauté du diable. Et le diable ne vient pas souvent, comme l'imagerie religieuse nous l'a montré, grimaçant avec des oreilles fourchues et puis toutes sortes de choses. Hein. Non, non, on prend pas les mouches avec du vinaigre. Hein. Non, non, non. Mais quelquefois, il vient d'une manière tellement séductrice, etc., etc. Et quand il ne peut pas nous avoir par la souffrance, eh bien, il nous a par la jouissance, par la séduction, par toutes sortes de choses. C'est ce qu'on appelle les fausses doctrines. Restons sur la parole. Et laissons-nous enseigner par l'Esprit de Dieu, naturellement. Ça, c'est important. Et puis, quand cet ange de lumière vient, eh bien, il nous aveugle. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous laisse un texte de référence. Et il dit ceci, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 3, il dit ceci, ces paroles, « Si notre évangile est encore voilé, et on comprend qu'il est voilé, parce que s'il était ouvert, je suis sûr que ce soir, on serait peut-être 5000 personnes ici dans cette salle, ça serait un problème, ça c'est sûr. Il est encore voilé. Parce que les gens, ils ne voient qu'à travers l'évangile que le contexte et le système religieux, mais c'est pas ça l'évangile. Alors, si notre évangile est encore voilé, il est voileux pour ceux qui périssent, pour ceux qui, quelque part, eh bien, sont encore dans une mort spirituelle et qui ne veulent pas de la vraie vie. Hein. Parce que pour la vraie vie, eh bien, il faut changer. Il faut être transformé, il faut se laisser transformer. Pour les incrédules, ceux qui disent « mais Dieu n'existait pas », dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Qui est le Dieu de ce siècle? Mais c'est le diable. C'est lui le Dieu de ce siècle, de tous les siècles. Toutes les générations qui passent ont affaire à lui, naturellement. Aveugler l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter parce que c'est une forme d'aveuglement. On peut se dire, mais pour nous, les chrétiens, on se dit, on a du mal à comprendre pourquoi les gens ne se convertissent pas. Pourquoi, quand ils sont malades, on leur dit, mais Jésus peut vous guérir, ils refusent de le croire, alors qu'ils sont prêts à la, ils sont prêts peut-être même à mourir. Que on leur dit, mais c'est formidable, la paix, la joie, le bonheur, le pardon, etc. Mais ils n'en veulent pas. Et qu'est-ce qui fait qu'ils n'en veulent pas? C'est que il y a ce Dieu de ce siècle qui a aveuglé leur intelligence. Mais on n'est pas sauvé par l'intelligence, on est sauvé par le cœur. Ça, c'est une chose. C'est pour ça que l'évangile s'adresse au cœur des hommes, à la conscience des hommes, à l'intelligence des hommes, et ça passe d'abord par le cœur, naturellement. Vous comprenez pourquoi j'ai choisi le texte « Par ta lumière, nous voyons la lumière ». Parce que pour la véritable compréhension, pour voir les réalités spirituelles du monde invisible, il faut que ce soit la lumière de Dieu. « Par ta lumière, nous voyons la lumière ». Autrement, c'est pas possible. Et puis, quant aux tribulations, comme Job, comme les nôtres, comme ça peut arriver, la lumière éclaire une promesse particulière pour ceux qui servent Dieu, pour les Job d'aujourd'hui, d'hier, pour tous ceux qui aujourd'hui, eh bien, servent le Seigneur. Écoutez bien, dans Ésaïe 54, je vous restitue au verset 15, au verset 14, où Dieu dit à ceux qui le servent, au Job d'aujourd'hui, à ceux qui souffrent sans comprendre, et qui savent que ça ne vient pas de Dieu, mais que ça vient d'un ennemi qui veut nous anéantir et nous neutraliser. Écoutez bien, tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. C'est nous, ça. Hein? Dieu nous dit, mais tu n'as rien à craindre. Quand bien même les torrents déborderaient, quand bien même, eh bien, les montagnes se submergeraient, eh bien, finalement, Dieu reste toujours fidèle. Alors, tu n'as rien à craindre, et la frayeur, elle ne s'approchera pas de toi. Et si l'on forme des complots, complots des hommes, ou complots invisibles dans le monde, dont les hommes sont les serviteurs de ce complot, hein, c'est arrivé. Dieu dit, mais ça ne viendra pas de moi. Alors quand vous avez maille à partir avec des gens qui vous vendent du mal, parce que on voit des gens qui ont quelquefois de la méchanceté. Moi, j'étais témoin cet après-midi qu'il y avait un monsieur avec un camion qui s'était garé 5 minutes devant une voiture. Et comme le monsieur était pas content, c'est vrai, on peut le comprendre qu'il était pas content. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dégonflé les pneus du camion. J'appelle ça de la méchanceté. Alors la personne est descendue, elle est venue, lui dit, mais pourquoi vous dégonflez mes pneus? J'étais là 5 minutes à livrer quelque chose. Vous vous rendez compte, dégonfler les pneus. Alors il a dégonflé qu'à moitié parce qu'on est arrivé. Parce que le chauffeur est arrivé. Mais autrement, il pouvait plus repartir. Hein. C'était un camion quand même assez important. Il pouvait plus repartir. Moi, je dis, c'est de la méchanceté. Écoutez, bon, c'est vrai qu'on peut être, quelquefois, il y a quelqu'un qui se gare mal ou des choses comme ça, mais au point, finalement, alors le chauffeur lui a dit, mais vous allez immobiliser tout le quartier là maintenant, parce que plus personne ne va pouvoir sortir. Hein. Moi je me dis, il y a de la méchanceté quelque part. On nous racontait aussi encore dernièrement, dans une école, parce que les enfants, ils ne se font pas de cadeaux entre eux. Hein. Il y a une petite fille qui disait, moi je ne veux pas faire le bien, je veux faire le mal. Quand vous entendez ça, une gamine de 10 ans, je crois, 8 à 10 ans, je me dis, dites donc quel monde dans lequel on va arriver. Hein. Et ça se passe là, dans notre pays, ici, hein, pas loin. Alors, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle du charbon, qui fabrique une arme pour son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser, cette arme. Et vous savez, celui qui a été envoyé pour briser toute arme contre les méchancetés humaines et contre les méchancetés de l'adversaire qui se sert des hommes pour faire du mal aux autres, eh bien, vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Ouais, c'est Jésus et notre victoire, elle est à travers Jésus-Christ, tout simplement. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. Tel est l'héritage de ceux qui servent le Seigneur. Mes amis, mes frères et sœurs, vous n'avez rien à craindre. Je voudrais vous le dire ce soir. Rien à craindre. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Job s'en est bien sorti. Mais alors, j'aurais pas voulu être à sa place. Parce que quand on dit qu'on passe un sale quart d'heure, c'était plus qu'un quart d'heure. Hein. Quelquefois, les épreuves, c'est plus qu'un quart d'heure. Mais il faut tenir le coup dans les épreuves. Et ne pas juger ou préjuger en disant, mais c'est Dieu, c'est... Non. Il y a des défis sur notre tête. Vous savez qu'il y a des défis sur votre tête? Moi, dans le ministère, j'en ai eu plusieurs, hein, je peux vous dire. Hein. Et heureusement que le Seigneur était là, parce que je ne sais pas, je vous parlerai peut-être pas ce soir. Hein. Ça, c'est clair. Toutes sortes de choses. Il a essayé beaucoup de choses. Et je suis pas le seul à dire, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de pasteurs qui pourraient le dire, ça. Hein. Ça, c'est vrai. Hein. Des défis à une certaine dimension, on se dit, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Mais bon, j'ai encore quelques cheveux sur la tête. Ils repoussent. Donc, je me dis, Jésus a eu raison. Hein. Il a raison. Pas un seul cheveu de votre tête ne tombera sans la volonté de votre Père qui est dans les cieux. Prenez courage. Vous avez des problèmes, des difficultés. Vous êtes ennuyé, vous êtes tracassé, vous avez ceci et cela. Faites confiance au Seigneur. Restez-lui fidèle. Que Dieu nous bénisse ce soir. On va prier quelques instants. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Oui, Seigneur, il y a bien des choses que nous ne comprenons pas. Mais ce soir, tu as voulu, Seigneur, mettre un plein feu sur les réalités que nous ne voyons pas, mais qui sont pourtant des réalités à caractère spirituel dans un autre domaine. Alors c'est vrai, Seigneur, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre l'humanité, contre, en effet, le péché des hommes, mais que nous avons à lutter contre des autorités, des principautés, des dominations et des esprits dans les lieux célestes. Parce que pour autant que nous voulons véritablement te servir, comme Job, que nous voulons t'aimer, que nous voulons véritablement faire ta volonté, alors à ce moment-là, Seigneur, nous croyons que dans le monde de l'invisible, notre tête est mise à prix. Et nous voulons, Seigneur, en prendre comme exemple parfait lorsque Jésus est venu prêcher l'Évangile. Guérir les malades, sauver les perdus, donner des paroles du ciel, apporter, Seigneur, les actes d'amour de Dieu sur cette terre, eh bien, les hommes l'ont crucifié. Mais nous croyons, Seigneur, que dès qu'il est rentré, Seigneur, dans son ministère salvateur, eh bien, le premier qu'il l'a rencontré au désert, c'est le diable. Et nous croyons que celui qui, eh bien, là, en effet, à la croix du calvaire, a ricané, c'était encore l'ennemi. Mais Seigneur, par ta mort, Jésus, tu as vaincu, tu as triomphé du mal, et que la mort a été vaincue parce que tu es ressuscité et tu es avec ceux qui souffrent encore aujourd'hui. Alors nous voulons te rendre grâce et te remercier. Je voudrais simplement te faire cette prière. Arme nos cœurs et arme nos bras, Seigneur. Oui, donne-nous, Seigneur, véritablement de croire à cette magnifique promesse que tu as, en effet, forgé l'arme, en effet, qui nous délivre, et cette arme, ce n'est pas une arme offensive, ni même défensive. Cette arme, elle a peut-être la forme d'une épée à l'envers, mais cette arme, c'est la croix, où Jésus est mort et a remporté la victoire sur le mal et le malin. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions. Merci Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.